Oui, merci Philippe, merci Bastien pour cette invitation. Donc je vais vous parler de la question de l'image et du son, puisque l'image est la thématique de cette journée. En fait, je vais partir d'un panorama, un petit panorama historique, une petite archéologie des rapports entre l'image et le son, pour vous montrer, vous le savez en partie, mais pour montrer toute l'importance du sujet au fil de l'histoire de l'art et aussi au fil de l'histoire des idées. Le principe de ce panorama, même si je reviendrai sur des choses très, très connues, c'est pour arriver finalement à la moitié de mon exposé, au moment où finalement des artistes vont pervertir ce dispositif entre l'image et le son, le parasiter, le détourner. D'une certaine façon, c'est le principe du titre, le double, le son aussi comme double inversé de l'image. Mais pour cela encore, faut-il tout de même partir d'une certaine conscience historique de la thématique, qui, comme l'écrit Dominique Noguès dans « L'oreille voit, mais l'œil aussi », dans la caverne de Platon, le cinéma est parlant. Les porteurs de figurines qui passent derrière les prisonniers et font les ombres, précise en effet Socrate, parlent tous se taisent. Bref, dès la première et la plus fameuse allégorie occidentale de la connaissance, la vue et l'ouïe, sens roi, sont associés. Donc, constitutif de la traversée des frontières sensorielles, de l'essai de recul et d'effacement de celles qui marquent la différence entre les arts plastiques et les territoires sonores, les correspondances entre couleurs et sons, formes et musiques, ouvrent une voie liminaire, inconsciente et féconde. Sa permanence réside moins dans son but concret, qui serait la réunion des arts, que dans le défi de l'utopie qu'à l'avenir elle sous-tend. Et c'est ce qu'écrit Jean Loxérois, il y aurait du côté de l'analogie liée à la tradition théologique une mauvaise correspondance qui n'a en fait jamais fonctionné et n'aura pu aboutir qu'à l'idéologie théâtralisante et peut-être totalitaire, dirait Adorno, de l'œuvre d'art totale. Et il y aurait une bonne correspondance, vraiment baudelairienne celle-là, c'est-à-dire poétique, qui ouvrirait sur la différence comme principe du sens de l'art et du rapport entre les arts. Seule cette dernière serait à même d'ouvrir au sens de la limite, au jeu de la différence immanent, au travail de l'œuvre, où se constituerait le rapport de l'art et du rien, le rapport de chaque art à soi et aux autres arts. Donc je vais, dans un premier temps, vous exposer trois séries de rapports entre l'image et le son, encore une fois, historique et classique, mais je pense que c'est vraiment bien d'avoir ça en tête comme point de départ. D'une part, la question des correspondances. D'autre part, la part oculaire de la musique, c'est-à-dire la part visuelle de la pratique sonore. Et ensuite, qu'est-ce que figurer un son? Qu'est-ce que le rendre image? Qu'est-ce que le donner à voir? Ce sera donc, d'une certaine manière, ma très longue introduction. Alors, l'art des correspondances reste une introduction fiable donc à notre histoire. Du débat classique de l'imitation, du débat classique sur l'imitation entre Platon et Aristote, au Laocoon de Lessing en 1766, en allant bien sûr jusqu'au langage de l'art de Nelson Goodman, la comparaison des arts et des ordres sensoriels, la vue, l'écoute, le toucher, propose non seulement un champ autonome de la recherche transesthétique, poétique et plastique, mais aussi parfois une dynamique qui révèle à chaque art finalement son ontologie, c'est-à-dire ce qu'il est en lui-même. Alors, dès lors, parmi les auteurs qui ont débattu de cette question, nous avons Diderot, XVIIIe siècle, qui met en relation les sens de la vue et du toucher. Puis, dès le début du XIXe, Jean-Paul et Goethe interrogent les correspondances dont le romantisme saura perpétuer la tradition. Le symbolisme, avec par exemple l'emblématique Duc des Essintes de Huysmans dans À rebours, continuera l'expérience quand, pour Baudelaire, que j'ai déjà cité, le projet des correspondances est associé à la création même du sonnet qui porte ce nom, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. D'ailleurs, c'est intéressant de distinguer la question des correspondances, qui serait plus proche d'une espèce de verticalité mystique, et de distinguer ça des synesthésies, cette communication entre les sens qui relèverait plus d'une réversibilité horizontale de la communication des sens entre eux. Au XXe siècle, un écrivain comme James Joyce, dans Ulysse, puis dans Finnegan's Wake, et là je vous renvoie à la lecture que Umberto Eco fait de cette œuvre dans L'œuvre ouverte, continue justement d'explorer cet ordre sensoriel et de les transgresser continuellement. Évidemment, la musique n'est pas en reste pour expérimenter une telle approche. Aucun musicien n'aura plus qu'Alexandre Scriabine, écrit Gérard Denisot dans Musique et Arts, n'aura plus que lui développé l'intuition d'une correspondance son-couleur, démontrable par l'analogie des spectres sonores et lumineux. Dans Prométhée ou le Soleil de Feu, 1909-1910, il juxtapose à son orchestre un clavier lumineux destiné à projeter sur un grand écran les couleurs correspondantes aux hauteurs musicales. Selon le cycle harmonique des quintes, le phénomène de la vibration étant supposé agent universel de la perception de l'univers sensible. Du point de vue pictural, František Kupka ou Vassily Kandinsky demeurent les artistes de cette recherche d'une dynamique commune à la musique et à la peinture. Donc, au lieu du dialogue avec les arts, la musique autorise alors l'artiste à produire, dans l'infini de cette rencontre, une expression qui ouvre de nouvelles dimensions spatiales et temporelles, et dont le mot d'ailleurs n'est pas exempt. Ça, je dirais que c'est une première façon de miner un peu cette question. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que pour, par exemple, beaucoup d'œuvres picturales qui ont trait à la musique, ont trait à la musique par le biais du titre. C'est-à-dire que le titre, et donc le mot, est déjà une première, à la fois une entrée, je dirais, un premier passage et une première entrée, un premier accueil dans le dispositif musique-art, mais en même temps, c'est aussi, et de fait, un premier aveu, disons, de faillibilité. Sans le mot, est-ce que l'œuvre fonctionne ? Sans le recours au titre qui indique la valeur musicale du projet pictural, est-ce que cela fonctionne pareillement ? C'est René Bloch dans ce catalogue qu'il avait fait au Musée d'Art Moderne, enfin à Berlin, puis repris au Musée d'Art Moderne, qui avait fait la liste justement de toutes les œuvres plastiques qui ont un titre musical pour justement faire rentrer dans ce projet des correspondances ou des parallélismes. Alors, autre approche, il s'agirait maintenant de traiter la part oculaire de la musique. Alors, pour Murray Schafer, il existe dans le cadre de la notation trois systèmes graphiques de représentation qui pourraient correspondre, là pour le coup, à des images sonores. L'acoustique, par lequel les propriétés mécaniques des sons seront avec précision transcrites sur le papier ou l'écran cathodique. La phonétique, et enfin, la notation musicale. Alors, avant d'aboutir à la pochette de disque ou de livret, ou du livret de CD, fait de contributions d'artistes et de musiciens, tels que le rock en a offert de nombreux exemples, avant que des expériences scénographiques entre son et lumière ne voient le jour et se démultiplient, les rencontres circonstanciées entre peintres, sculpteurs, photographes et vidéastes et musiciens commencent avec la notation musicale et la partition. Alors, Pierre Boulez, dans son livre sur Paul Klee, Le pays fertile, écrit « Pour le musicien, il y a un rapport très dangereux, sinon subtil, entre l'œil et l'oreille. Je ne parle pas de l'œil en tant qu'inspiration, mais de l'œil qui regarde la partition en train de se réaliser. Une partition est faite aussi pour être lue, et le compositeur lui-même, quand il l'écrit, l'entend intérieurement et la lit en même temps, et parfois, il a tendance à se laisser happer par des problèmes graphiques. » Il pourra être attiré par une très belle disposition de la transcription visuelle, par son intérêt esthétique. Et on a vu beaucoup de compositeurs se laisser séduire par cet aspect extérieur de la partition. On peut même, poursuit Boulez, on peut même chez Bach rencontrer certains dispositifs qui sont autant optiques qu'auditifs. Et je dirais que dans certains canons, il y a presque plus de nourriture pour l'œil que pour l'oreille. Donc on voit bien comment finalement l'écriture musicale peut elle-même finalement, dans une approche performative, progresser par une logique visuelle. Alors dans un tout autre domaine, mais d'une certaine manière ce n'est qu'un autre volet de cette même question, on peut imaginer que des... Enfin, on peut penser que des systèmes... non conventionnels d'écriture musicale, tels qu'on les retrouve chez Ligeti ou chez Cage, peuvent également correspondre, au-delà de la valeur plastique, à une crise de la musique elle-même, c'est-à-dire que la musique se renouvelant, la musique étant en crise, enfin en crise moderne, et de fait trouvant d'autres modalités artistiques, de création, de fait, elle va totalement renouveler son système d'écriture et passer par des phases totalement expérimentales et totalement originales. C'est peut-être aussi ce qui fait dire à Stockhausen, dans un entretien donné au Monde en 2005, Dès mes débuts de compositeur, j'ai réalisé que la précision du dessin était essentielle pour une exécution sans faute de la musique. Je me suis attelé à cette tâche pour chacune des 330 œuvres créées à ce jour. Que restera-t-il de moi à la fin de cette vie ? Avant tout, des partitions. Elles doivent donc être sur le plan graphique, aussi limpides et belles que possible. Alors, un autre exemple, là, encore une fois, je vous donne des exemples qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux, si ce n'est que la part, finalement, la part oculaire de la partition musicale ou de la part graphique de la musique devient un élément plastique en soi. Un dernier exemple, donc, pourrait être les Stripsodies de 1966 de Cathy Berberian. C'est un collage d'onomatopées de bandes dessinées américaines qui ont, à partir desquelles elle réalise donc des pièces musicales, elle chante, et qui conduit le peintre Eugenio Carmi à dessiner des formes abstraites à partir de ces mêmes chants. Donc il y a une espèce de système interactif entre les bandes dessinées qui sont interprétées par la chanteuse et qui ensuite sont réinterprétées par un peintre avec lequel elle travaille, tout cela s'entre-nourrissant. Enfin, troisième question, qu'est-ce que figurait le son ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le donner à voir ? Comment peut-il faire image ? Un élément de réponse serait précisément de le représenter. Alors, à travers des personnes qui écoutent ou qui connaissent une sensation de plaisir ou de déplaisir en écoutant, en chantant, en criant, à travers la mise en scène aussi d'éléments sonores et musicaux dans la peinture. Non seulement le thème de la musique et du son migre dans le champ plastique, mais aussi avec la modernité, il se double d'une interrogation sur le pictural au regard du musical. Vous avez cela par exemple chez Georges Braque, qui finalement, fasciné par la plastique de l'instrument, va désarticuler l'instrument dans la toile et ce faisant interroge la perception temporelle et spatiale de la peinture elle-même, mais en passant finalement par le filtre de la présupposée durée temporelle de la musique. Alors, figurer le son, il s'agit alors de l'imaginer à partir d'instruments de musique, mais cela pourrait être aussi d'émetteurs-récepteurs, comme des transistors chez Robert Rauschenberg ou Namjoon Paik, ou de combiner téléphonique également dans l'exposition de 1969 « Art by Telephone » au Musée d'art contemporain de Chicago. Bref, silencieux ou pas, ces signaux donnent à voir dans une peinture ou une installation l'élément sonore en travaillant depuis ses forces figurées. Elles produisent un effet de son, à l'instar des Broken Music de Milan Knizak, qui sont des pièces faites à partir de disques manipulés tantôt visuellement, tantôt acoustiquement. Alors, il y a deux œuvres que je vous montrerai à partir de livres. Donc ça, c'est parce que je n'ai pas de reproduction de ces pièces à vous projeter, donc je peux vous les montrer comme ça, et puis éventuellement on peut faire circuler le livre. Donc voilà une des pièces réalisées par Knizak à partir de disques vinyles. Donc lié au mouvement Fluxus, Milan Knizak crée ses Broken Music à partir dans la décennie 1970, en manipulant des disques visuellement ou d'un point de vue sonore, en les rayant, les cassant, en jouant sur leurs variations de vitesse. Alors, voilà ce que dit Knizak à ce sujet, à Jean-Yves Bosseur, donc dans son livre « Le visuel et le sonore ». Et vous songez au disque comme à une chose sur laquelle ou à l'intérieur de laquelle il y a eu de la musique. Même si elle n'est pas présente, même si vous ne pouvez pas la jouer, vous montrez des disques qui sont complètement impossibles à jouer. Mais la musique est là. C'est de cette façon que je l'aime. Vous regardez la musique, vous ne l'entendez pas, vous la regardez et vous l'avez. Vous le savez, c'est merveilleux. Voilà, donc il y a aussi une espèce vous voyez, une fascination plastique pour l'objet musical qui devient une espèce d'objet de désir plastique. Je pense que cette notion, elle n'est pas totalement négligeable. Objet de désir plastique. Objet de désir plastique, enfin. Lacan disait du désir, le désir, c'est ce qu'on n'a pas. Et d'une certaine manière, je pense qu'il y a aussi un côté aporie, disons, dans la relation que certains plasticiens peuvent entretenir avec la musique, c'est-à-dire une difficulté de fait à faire fusionner les arts, et c'est tant mieux. Mais dans cette difficulté-là, finalement, trouver les ressources et la matière à créer du désir et, de fait, à créer de la plasticité. Alors, dans des exemples beaucoup plus récents, mais qui continuent finalement à mettre en œuvre ce dispositif, on a dans l'exposition live au Palais de Tokyo des œuvres de Xia Fei Shang, donc, qui avait exposé donc, une sculpture qui s'appelle The Band. En fait, elle prend les motifs de la musique pop et elle les recouvre de fleurs, kitsch et extrêmement légères. Alors là, j'ai une autre vue de ses travaux. Donc, comme l'exposition le note, un set d'instruments, micro, batterie, guitare et ampli, recouverts de fleurs synthétiques, tels les résidus de rêves, de gloire et de fantasmes d'adolescents, des instruments figés et inutilisables, trônent sur une scène transférée en icône de bazar populaire. Et dans le même esprit, assez finement, je trouve, dans l'exposition Dionysiaque au Centre Georges Pompidou en 2005, Christophe Buchel avait présenté l'installation Minus. Alors, la représentation que j'ai trouvée est très différente de celle qui était proposée pendant l'exposition Dionysiaque, sans compter que ce qui est intéressant, c'est que donc c'était présenté dans une chambre froide, puisqu'en fait, vous voyez des instruments de musique, enfin, des éléments d'une scène d'un groupe de rock, mais tout est congelé, tout est figé dans la glace. Donc, dans l'exposition, vous faisiez une file d'attente, on rentrait un par un dans une chambre froide, et à l'intérieur, donc, on découvrait ces éléments musicaux. Alors, je crois que ça peut jouer à deux niveaux. D'un côté, vous avez, disons, toute la littéralité du rock avec les instruments de musique qui renvoient à une affaire d'énergie, de présent, de physique, de tension, de transe, tel que Dan Graham a pu l'appréhender. Et en même temps, l'image de ces éléments congelés dans la glace renvoie à une figure de l'anamnèse, c'est-à-dire où le temps révolu fait à chaque fois retour dans un mélange de mélancolie, finalement de mélancolie et d'énergie qui sont peut-être aussi un des propres du rock. Je pense qu'il ne faudrait pas négliger ce côté anamnèse du rock. Enfin, c'est un autre débat, il me semble qu'il y a aussi quelque chose finalement de très mélancolique dans la perception de cette musique-là, et de fait le voir ainsi congelé dans le temps, pris par le temps peut être une entrée intéressante. Bref, on pourrait ainsi poursuivre cet inventaire des rencontres thématisées ou conceptuelles, mais à chaque fois hospitalières, parce que là je viens de vous parler de rencontres hospitalières. Entre le domaine sonore et les arts plastiques, on pourrait évidemment les prolonger à l'infini dans leur dimension poétique et poétique, c'est-à-dire dans la dimension poétique, mais aussi du point de vue d'une esthétique de la fabrication, mais toujours, comme on le voit, visuel. Alors on trouverait dans cette histoire l'utopie des machines sonores, la traversée des avant-gardes historiques, on pourrait s'interroger sur le futurisme, sur Fluxus, des recherches d'ordre spatial entre l'image et le son et jusqu'aux expériences radicales ou beaucoup plus ludiques de rencontres entre le pop, le rock et l'art. Mais s'il m'a semblé important justement de présenter, même si je l'ai brossé évidemment à grands traits, comme ça, cette histoire, cette espèce d'archéologie des relations entre l'image et le son, c'est aussi pour finalement aller vers son contraire maintenant, d'où l'idée de double inversé. C'est-à-dire que on peut réfléchir sur le fait que l'histoire du son dans les arts plastiques en général et avec l'image en particulier est aussi un rapport contrarié, aussi un rapport de contradiction, d'opposition, fait de tension, de dramaturgie, de pression, une histoire sémiotique en creux par défaut, le son produisant constamment de la contre-image. Alors, donc là. Maintenant, je vais donc vous donner deux exemples. Enfin, j'ai essayé d'argumenter ma proposition à travers en deux parties. Dans un moment, donc, on traitera du cinéma, qui est peut-être l'inconscient de ces questions. Donc, c'est pour ça qu'on fera après. On va commencer donc par la fin, c'est-à-dire par l'art contemporain, et voir comment, dans les arts plastiques aujourd'hui, le son aussi travaille contre l'image. C'est-à-dire comment, dans un certain nombre de travaux, loin d'être dans une relation comme ça de, Oui, d'hospitalité, on a une tension, une friction qui se joue et qui est mise au service à chaque fois d'un projet, me semble-t-il. Alors, la première approche concernera la question du politique. C'est-à-dire, dans les tendances, dans les pratiques contemporaines du son, on peut trouver toute une dimension, enfin, toute une raison de l'usage sonore dans le champ de l'art qui relèverait de ce que j'ai appelé micro-politique, micro parce qu'évidemment c'est petit, enfin je veux dire, il faut tout remettre à sa juste place, hein, ça n'a pas une dimension, enfin, de théorie politique, mais évidemment parce que c'est aussi sonore. Alors une pièce qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est Oracle de Rauschenberg. Alors on peut la prendre comme point de départ. Donc Oracle de Rauschenberg, c'est donc une œuvre qui a été faite entre 1962 et 1965. Rauschenberg donc conçoit avec Billy Cluver Oracle, une sculpture interactive composée de 5 éléments de récupération en tôle galvanisée qui, montés sur roulettes, possèdent chacun une batterie, un poste émetteur et un haut-parleur. Or, les 5 éléments de cet environnement sonore, différemment présentés en fonction de l'espace d'accueil, ont une symbolique énonçant quelque chose de la ville et de la solitude mécanique, de la mise en scène de l'habitat contemporain, d'une société consumériste devenue précaire, paupérisée, en alerte et désarticulée. Oracle pourrait figurer un terrain vague où les rebuts d'une société industrielle, urbaine ou marchande, se dresseraient comme des animaux irradiés, triomphants et simultanément interchangeables dans ce chaos. Donc, art domestique procédant des technologies du quotidien, les postes de radio, parce qu'alors, donc, il y a dans chacune de ces sculptures des postes de radio, hein, qui sont initialement et théoriquement, parce que c'est vrai qu'au fil de la présentation, moi je l'ai vu 3 fois mise en espace, et puis c'est vrai que ça ne marche pas toujours. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Après, c'est un autre problème. Enfin, en même temps, c'est un autre problème et c'est une vraie question. C'est-à-dire que les musées aujourd'hui sont confrontés d'abord au problème de la monstration des œuvres sonores. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours les pièces qui ont l'acoustique nécessaire pour présenter des œuvres sonores. Et d'autre part, aussi des problèmes de conservation de ce type de production. Bref, en attendant, théoriquement, il y a dans chaque élément d'Oracle donc des postes de radio, et ces postes de radio, finalement, diffusent les radios, les stations qu'il y a dans la ville où la pièce est présentée. Donc vous avez tout un ensemble de brouillages de repères spatiaux, d'une part, difficulté par exemple à imaginer les sources radiophoniques, également un brouillage qui résulte de la configuration mobile de la topographie urbaine, déplacement des points d'écoute qui l'organisent, en l'occurrence le spectateur, et parasitage enfin, qui se joue moins dans la saturation que dans l'infiltration sonore, son extension spatiale. Le son dans Oracle apparaît comme un contrepoint subversif, inventif et dynamique, à une ville représentée par des objets de fer. Alors, de ce point de vue-là, on ne peut pas s'empêcher de remettre la radio dans la perspective politique qui est la sienne. Bon, la radio me semble être un élément tout à fait passionnant pour penser le son, c'est pas l'objet ici. Mais ce qui est intéressant dans la radio, c'est que d'abord, la radio est mémoire, ça c'est presque devenu une de ces définitions, mais la radio elle est mémoire, mais elle a aussi une mémoire. Et ça, c'est assez, ça a été, je dirais, finement entretenu et aussi finement remarqué dès le départ. Par exemple, Bertolt Brecht a écrit à la fin des années 20 une théorie de la radio dans laquelle il remarque justement la potentialité politique de la radio, son caractère participatif, c'est-à-dire le fait que des producteurs, enfin des auditeurs puissent facilement devenir producteurs et inversement. Et Brecht donc écrit en 1925 une lettre à un 1927 une lettre à un directeur de radio en disant: mais amenez vos radios sur le terrain près de la vie des gens et confiez-leur des micros. Et déjà, avant lui, et c'est en partie ce qui a inspiré les travaux de Brecht, Léon Trotsky avait théorisé la radio, justement, dans cette perspective, dans la perspective, évidemment, prosélytique. Alors, la radio a une histoire, la radio est histoire, et de fait, la conscience, disons, politique de la radio, qui affleure de ci, de là, s'inscrit aussi, je dirais, dans son archéologie. Alors, dès lors, Oracle de Rauschenberg reprend une certaine idée politique du quotidien, en l'occurrence par cet objet, l'art domestique, mais en même temps historique, qui est la radio, et relie cela, le réactualise dans une société, finalement, où il organise des collages sonores qui me semblent moins libres que libertaires et qui apparaissent donc comme un contrepoint à l'aggloméré visuel. Alors, à partir de là, on peut avancer deux types de recherches politiques à partir du son, sur le son. La première se jouerait, d'abord, le son se jouerait contre le visuel, contre l'image, et porterait en creux une notion symbolique de résistance que son invisibilité opposerait, peut-on l'imaginer, au flux de l'image de masse. Donc la première approche, ce serait le son comme un principe de résistance. Et puis ensuite, le son conduirait autrement à un sujet ouvertement politique, c'est-à-dire son immatérialité, sa banalité, son caractère ordinaire, domestique, son interactivité, sa légèreté, finalement activerait un discours qui se défierait des grands mouvements idéologiques ou des grands qui garderaient finalement une forme d'indépendance. Alors, dans un premier point, sur l'aspect strictement politique du son contre l'image, il y a un artiste qui vit entre l'Espagne et les États-Unis, Antonio Muntadas, qui donc a beaucoup créé de dispositifs sur ces questions. Alors, on va voir. Donc, il a une œuvre qui est extrêmement protéiforme, qui peut passer par l'installation sonore, par l'installation multimédia, par des photographies, de la vidéo. Alors, ce qu'il apprécie et ce qu'il essaie de mettre en évidence, c'est le rapport public-privé, finalement, des systèmes de communication d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment certaines pièces ou certains systèmes qui ont des caractères extrêmement privés, alors par exemple une conférence de presse ou un conseil d'administration d'une très grande entreprise, qui ne sont jamais qu'un élément du discours dans un lieu clos, se révèlent de fait et par nature et par fonction diffusés au plus grand nombre et donc ont immédiatement un caractère public. Alors, il essaie de jouer comme ça, aussi bien sur des dimensions sur les dimensions professionnelles, sociales, économiques, mais aussi dans un cadre plus subjectif et plus intimiste, comme par exemple avec sa série Stadium, où dans Stadium, il va travailler justement sur des stades, sur l'imaginaire des stades, sur les bruits des stades. Alors, avec tout ce que ça a, encore une fois, de massif, et en même temps aussi de subjectif, parce que, par exemple, à un concert qui se produit dans un stade, il y a beaucoup de personnes, donc il y a un effet de foule, mais également, chacun s'y retrouve avec son intimité et son imaginaire. Alors, voilà, par exemple, en ce qui concerne la conférence. Voilà, donc ça c'est la conférence de presse. En 1991. Et alors parallèlement, il y a donc une pièce sonore que je vais vous faire écouter. Tout en sachant qu'il peut présenter parfois des photographies, parfois des installations, enfin, ce sont vraiment des espèces d'œuvres mobiles, si je puis dire. Voilà, donc vous avez compris le principe, donc document d'archives de grands discours politiques. Alors, ça, dans une autre pièce qui s'appelle Portrait, cette fois-ci, ça va être une exposition de fragments de bouche dans un micro. Voilà, donc ensemble de sérigraphies proposant des fragments de bouche qui parlent dans un micro comme si, aussitôt énoncé, la parole du discours amplifié faisait voler le corps en éclats. C'est encore une variation sur la notion de violence de la traduction médiatique qui est montrée. Voilà, alors avant, bon, comme c'est un peu long sur Vito Acconci, je préfère ne pas trop m'y aventurer parce que j'ai un peu du mal à maîtriser la durée de mon exposé compte tenu du fait qu'il y a pas mal d'extraits à vous montrer. Mais donc, chez Vito Acconci aussi, on aurait pu faire ce type d'analyse, peut-être de manière moins directement politique, enfin de manière moins littérale, mais on a également cette espèce de tension entre finalement le corps de l'artiste, le corps du sujet et la manifestation sonore. Alors, à chaque fois, l'écoute fait-elle obstacle au regard? Le son contre-t-il l'image? Alors, je reviendrai ultérieurement sur cette approche, sur cette importante conception artistique, notamment dans l'histoire du cinéma, que développe un écrit essentiel d'Eisenstein de 1928. Mais le fait demeure, dans les pratiques contemporaines, une approche politique plastique peut trouver dans un rapport de friction, de tension entre l'image et le son, autant son miroir ontologique, c'est-à-dire finalement ça révèle aussi bien ce qu'est le son en propre et ce qu'est l'image en propre, que finalement leur dynamique commune stylistique. Alors, de ce point de vue-là, quelqu'un qui a tout à fait alerté dans son œuvre sur ces questions, c'est le cinéaste Robert Kramer. Voilà ce qu'il disait dans un entretien en 1993. « Comment faire des images qui vont avec des sons ? La danse entre ces deux choses est prometteuse d'un pouvoir et d'une résistance très important, parce que cela permet des courts-circuits. Cela permet, par exemple, de bloquer certaines directions de l'image et de suggérer que telle image va par là et pas par là. Autrement, le son peut ouvrir le fond d'une image. Et une image qui est assez plate devient ainsi extrêmement suggestive. On capte une chose de manière beaucoup plus riche en éloignant le son de l'image. C'est un terrain extrêmement important, et particulièrement parce que le son coûte très peu. Dans le domaine du cinéma, cela coûte infiniment peu comparativement aux images. » Alors, le cinéaste décrit ici, d'un point de vue poétique, d'un point de vue de l'esthétique de la fabrication, la relation stylistique et sémantique au son que les images de ses films entretiennent, tandis que le son, de manière plus générale, participe au projet politique de son œuvre. Dans le même ordre d'idées, la vidéo d'Isaac Julien, Territories, en 1984, est un documentaire militant qui s'inscrit dans le contexte de la société anglaise de la décennie 1980. Il tisse une subtile réflexion sur la matière plastique et translucide des images, subverties par de constantes mises en abîme, qui jouent de contrepoint avec un collage sonore dont l'enjeu apparaît également politique. En effet, le mixage des sons de système et de chansons mélodramatiques et engagées, en l'occurrence The Ballad of Sacco and Vanzetti de Joan Baez, propose un symbole aussi poignant qu'énergique, physique, de la figure protestataire. Dès lors, en partant de la représentation télévisuelle par la BBC, du carnaval de Notting Hill, Isaac Julien développe le caractère occulté de cette manifestation de la communauté noire, sa part revendicatrice et subversive. Et là, le son est véritablement, de cette vidéo, enfin, le vecteur plastique et diégétique, enfin, le vecteur du récit. Alors, je pourrais également citer, mais bon, là, je laisse Philippe Franck le faire aujourd'hui ou demain, le travail de Finney Block, en particulier The Movement of People Walking, que j'avais vu à CitySonics, et qui me semble aller aussi dans ce cadre-là, à travers donc, cette collecte de gestes d'hommes et de femmes au travail dans le monde non occidental. Voilà, mais bon, je te laisse le soin de... spécialiste, le soin de le traiter. Alors, bon... deuxième aspect, donc, c'est la pression d'une. Donc, deuxième aspect, disons, de cette tension image-son, c'est la pression, mais alors tout à fait différent finalement. Donc, parallèlement, la pression d'une stylistique du quotidien, de l'ordinaire ou du banal, qui serait un héritage lointain des avant-gardes de l'entre-deux-guerres, de Dada, de Schwitters et de Duchamp, puis de Fluxus et de Robert Filliou, intervient autant sur le statut de l'œuvre d'art que sur l'ouverture à l'infini de ses formes. Et puis, il y a la disparition des utopies qui, paradoxalement, reformulent leur donne à l'heure d'une conception consommatrice de la planète devenue hypermarché global. Bref, l'entrecroisement de ces états de fait contribue à un art modeste, banalité proche de l'anonymat des choses quotidiennes, qui trouve dans l'expression audio son miroir composite. Alors, en effet, le caractère ordinaire du son participe à la confection de la texture et de la matière qui introduisent sans doute à cette esthétique du quotidien qui, dans l'effondrement réactif des idéologies, a produit dans l'art de la décennie 1990 une poétique ambiguement critique de la société de consommation et une plastique dont l'absence d'héroïsme demeure finalement extraordinairement touchant. Alors, je vais vous donner des exemples qu'on trouve aussi bien en peinture que dans d'autres types de productions. Alors, en peinture d'abord, je pense à deux peintres, l'un avec des œuvres plus anciennes, c'est Carlos Kouchner, Voilà, c'est en fait essentiellement pour vous montrer le principe des dispositifs, le principe de ce type de recherche. Là, il s'agit vraiment de peinture. Je vous parlais de deux peintres qui finalement associent des éléments sonores, alors à travers des petits micros. Des petits micros et des petits diffuseurs donc, dans la peinture, comme chez Kouchner. Alors là, en fait, c'est une œuvre plus récente, mais ce sont dans des peintures plus anciennes, où c'est peut-être plus significatif, des œuvres comme Chant des oiseaux numéro 2, La fulgurance du cœur ou Perfidia, à la fin des années 80, où finalement, des haut-parleurs diffusent des morceaux de toutes sortes de musique derrière certaines peintures. Et ensuite, on a chez un jeune artiste, Damien Béguet. Alors là, en revanche, c'est pas très grand. Donc en fait, match 1, Damien Béguet donc, modifie la perception. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une peinture ludique qui est augmentée donc d'autoradio. Ce sont des enceintes d'autoradio qui sont directement situées dans la peinture elle-même. Donc à chaque fois, le son modifie la perception des formes géométriques ou du décoratif et insuffle dans la symbolique de ces peintures, comme en un écart de style, une figure modeste de la dérision. Alors différemment, on pourrait citer également Claude Klosky. Alors vous connaissez le goût pour les séries qu'a Claude Klosky. Et donc de fait, dans ces formes qui sont souvent photographiques ou vidéo ou graphiques, le son intervient, par exemple dans cette œuvre « Plus de 300 petits prix » en 1991, qui a également une version audio. Alors, dans le même ordre d'esprit, comme ça, la stylistique de sondage pourtant désabusée qu'a fait Marilène Négro dans la pièce « Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ». En fait, c'était à la galerie Jennifer Flay en 1992, où des personnes devaient appeler sur un répondeur téléphonique laisser un message, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et ensuite, elle collectait ces messages et en produisait une œuvre sonore. Par parenthèse, les répondeurs téléphoniques ont beaucoup inspiré. Beaucoup inspiré beaucoup d'artistes, voire même certains événements artistiques qui ont fait des expositions collectives autour de cette thématique. Voilà, donc Marilène Négro, en faisant ce type de procédé, propose des fragments de voix ayant déposé sur des répondeurs téléphoniques l'une de ses propositions. Et donc, cela introduit un certain état d'âme contemporain un peu désenchanté du monde. Alors, autre exemple, Valérie Favre. Alors, Valérie Favre a fait une très belle pièce qui s'appelait « La bibliothèque imaginaire » en 1994 et qui, en fait, était uniquement le bruit d'une bibliothèque. Et finalement, les livres étaient non pas à lire, mais c'était leur bruit qui était finalement à imaginer. Et puis, dans un autre registre, elle a produit différents CD, dont un où elle a réalisé des recettes de cuisine. Alors, je vais vous faire écouter... une de ses recettes de cuisine. Voilà, bon, enfin, donc c'est. J'ai compris le principe. Alors, bon, je serais un peu nuancé là sur cette esthétique de l'ordinaire ou sur cette esthétique de modeste finalement sur une telle pièce parce que d'un côté nous avons un sujet effectivement qui est tout à fait anodin et domestique, une recette de cuisine, et de l'autre côté la manière dont l'artiste fait sa lecture avec une voix finalement très bien posée, assez. Quasi théâtral, cela donne un côté, finalement, la scène ordinaire est théâtralisée. Mais cela s'inscrit assez bien dans ce qui était un mouvement de l'art français des années 90. En photographie, on avait ce même type de procédé. Je pense à des artistes comme Florence Paradeis, par exemple, qui avait vraiment fait des allégories du quotidien, ou vraiment des gestes anodins de tous les jours par le biais de la lumière, de l'éclairage, ou par le biais également de la couleur, était finalement théâtralisé. Voilà. En tout cas, on se retrouve sur cette esthétique, au moins du point de vue du sujet, de quelque chose qui relève du banal. Alors, n'est-ce pas une variation sur le son dans la fragilité de ces emplois? Qui relèverait d'une simplicité, qui prend le risque de l'anodin, qui fait office de mémoire aveugle au regard de la profusion médiatique, au désastre de l'image de masse, comme si l'écoute, à nouveau, résistait au regard. Le son comme dissidence sémiotique dans la surchauffe visuelle du monde. Dans un sens élargi, encore, cette présence du son dans l'art contemporain brosse à grands traits, mais définitivement donc, une perspective politique. Alors, l'autre aspect que j'aimerais soulever maintenant, avant de passer à la question du cinéma, qui me semble être majeur pour finalement, qui travaille de toute façon cette question de la contrariété image-son, de la contradiction image-son, ça serait ce que j'ai appelé dans mon travail la poétique de l'inaudible. C'est-à-dire, on a au fil du XXe siècle une montée en puissance de l'immatérialité de l'art. Figure tutélaire, c'est probablement Marcel Duchamp, mais ensuite constamment, l'art gagne en formes immatérielles. Alors, de Marcel Duchamp, qui en 1920 intitule « Élevage de poussière, la photographie que fait Maneret de la partie inférieure du grand verre », jusqu'à une œuvre qui n'est pas très loin de Claude Lévesque, « J'ai rêvé d'un autre monde », puisque c'est une œuvre donc, qui se trouve à la collection Lambert, à l'hôtel de Caumont, en Avignon. Donc, j'imagine que vous l'avez probablement vu et entendu, c'est au dernier étage. Et donc là, on a une espèce de brouillard diffus avec un bruit de basse continu. Donc, on voit que la question de l'immatérialité traverse finalement la création depuis les avant-gardes historiques jusqu'à des créations d'aujourd'hui. Alors, d'une œuvre à l'autre, d'élevage de poussière à j'ai rêvé d'un autre monde, des avant-gardes historiques à la recherche actuelle, l'histoire de l'art est donc faite de cet oxymore, c'est-à-dire la transparence et l'invisible densité du voir. Et cela développe maintenant une espèce d'irréductibilité de l'énergie plastique à travers une approche du son comme figure de l'immatérialité ou bien inversement à travers l'immatérialité comme plastique sonore inaudible. Un autre monde intervient alors, celui des infrabasses ou des ultrasons, qui prennent place ou bien aux limites de ce qui demeure perceptible, ou bien dans une approche de la perception comme limite physique, fulgurance poétique de la dimension inaudible et plastique du son. Ces instants sonores ne s'entendent pas, mais la seule idée de leur état s'ouvre sur la possibilité de leur présence et l'intensifie. Alors, là encore, le rapport avec l'image, il est possible, mais en creux, c'est-à-dire comme une image qui serait finalement hanté par le monde invisible, qui n'est évidemment pas l'absence à laquelle la présence de l'image renvoie, mais son caractère immatériel d'expérience qui excède le réel, en fait ce que Jean-François Lyotard a appelé la part figurale, la part qui excède, la part d'indicible. Le son, quant à lui, serait d'abord perçu depuis sa seule énergie virtuelle, mais aussi donc, dans une forme de suspens, conceptuel. Parfois, certaines œuvres jouent sur le fait que rien ne s'entend et rien ne peut s'entendre, et c'est précisément la réflexion sur l'écoute qui est proposée. Alors là aussi, on pourrait s'amuser, encore une fois, à donner des... à s'amuser. Disons, on peut faire une traversée comme ça des œuvres. On peut penser à la voix des terres de Laurie Anderson dans certaines pièces. D'ailleurs, dans le domaine du chant, il y a Louise Bourgeois a fait quelques chansons, et notamment Le murmure de l'eau qui chante, qui est vraiment une variation poétique, justement, et un ode à la légèreté et une nouvelle figure de l'immatérialité. Mais il y a un artiste espagnol, José Antonio Orts, qui a composé « Territoire de son blanc ». Alors, ce sont des percussions en fait, électromagnétiques en série qui deviennent infimes et qui prolifèrent en écho. Tout cela produit un flux dense et ouvert de perceptions subjectives et matiéristes. Voilà, si ce travail vous intéresse, sachez qu'il a eu une importante exposition à Valence en 1997, à l'IVAM, et qu'un CD a été édité, que je comptais vous faire écouter, mais je l'ai prêté à des étudiants et ça a été une grave erreur. Je récupérerai la semaine prochaine, donc je suis désolé, il y a une semaine de décalage. Voilà. Alors, autre exemple comme ça sur cette immatérialité sonore sur ces limites finalement audibles, inaudibles. Donc, il y avait une exposition à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2004 qui s'appelait Densité plus ou moins l'infini, et qui avait comme but de travailler sur l'invisible, le vide, l'impalpable et le fugitif. Et dans cette perspective, il y avait par exemple les travaux de Mark Bain. Alors là, il s'agissait donc d'éléments sonores qui provenaient de l'enregistrement d'ultrasons émis par le sol et captés à l'aide d'appareils sismiques, ou encore, dans un autre registre, donc, de l'arsène qui naissait de l'amplification technique du silence chez Frédéric Nogret, toujours dans cette même exposition. Il me semble d'ailleurs que certaines des pièces qu'on a écoutées hier soir lors de la soirée de Christina Kubisch me semblent aller aussi dans ce sens des limites du perceptible, de l'imperceptible, des limites de l'audible. Bon. Un élément poétique d'ailleurs, organique, qui renvoie à cela, c'est la figure du vent, assez importante d'ailleurs dans la recherche sonore, on le verra tout à l'heure au cinéma. Et cet été, au musée Reattu d'Arles, avec Fonur Gianova, il y a eu une série de compositions radiophoniques sur le thème du vent, des très belles pièces, et notamment une pièce de Anna Hartmann qui explorait la poétique de la mer Baltique, faite de grincements, de flots, de courants marins, de cris d'oiseaux, de vent. Alors, il ne s'agit pas directement de quelque chose inaudible, mais en revanche, chose qui fonctionne justement sur la capacité qu'a le vent à restituer finalement de l'invisible. Alors, bon, je ne m'attarderai pas sur l'œuvre de Max Neuhaus. Bastien Gallet a parfaitement présenté hier cet artiste. Si ce n'est que j'aimerais justement, pour conclure justement cette partie sur l'immatérialité, qui encore une fois est une approche du son qui contre l'image, un beau témoignage de Neuhaus sur ces questions à propos d'une œuvre qu'il a réalisée en 1983. Je le cite : J'ai toujours été fasciné par un son particulier. C'est un son de la nature, impossible à enregistrer, celui d'un certain type de pin traversé par le souffle du vent. C'est un pin que l'on trouve aux Bahamas. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que ce son est seulement créé par le frottement des aiguilles les unes contre les autres. C'est un son absolument inaudible. Vous pouvez toujours essayer de frotter deux aiguilles de pin l'une contre l'autre, vous n'entendrez jamais rien. Mais le fait qu'il y en ait 500 000, l'accumulation fait qu'on obtient ce bruissement incroyable. Et cette ampleur, car aucune aiguille de pin n'est identique à l'autre, Chacune ajoute à cette différence inaudible. Voilà, donc ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette première partie, c'est qu'après ce panorama, si vous voulez, tout à fait petite micro-archéologie du son dans l'art, et on voit tout de même toutes les correspondances qu'il y a eu au fil de l'histoire de l'art et de l'histoire des idées, on voit aussi qu'il y a une approche qui se joue sur la confrontation, la contradiction, l'opposition, la tension, et que celle-ci est une poétique et une poétique. Elle se joue aussi bien dans une perspective politique que dans une dimension du quotidien, de l'anodin, qui justement, finalement, se dresserait en faux dans un monde de l'image médiatique généralisée, et puis ensuite avec cette espèce de prolongement sur l'inaudible, les frontières même de la perception, le son contre l'image. Alors, de ce point de vue-là, encore une fois, il y a un inconscient, ça sera donc dans la deuxième partie de mon exposé. Il y a un inconscient, de certaine manière, c'est le cinéma. Le cinéma porte en lui, je dirais, la question du son, du temps du muet. Le son est là en creux, par défaut, absent, et parfois constamment là. Et puis ensuite, je pense à Jeanne d'Arc de Dreyer, par exemple, qui est absolument stupéfiant quand on voit justement la manière dont les juges qui condamnent avec une virulence stupéfiante Jeanne, finalement le font avec une expression et des mimiques dont précisément le silence évidemment renforce le caractère assourdissant, si vous voulez. Donc le muet est déjà hanté par la question du sonore, et quand le cinéma va devenir sonore, ça va être une espèce de crise sémiologique, une crise sémiotique dont je vais essayer de vous rendre compte un peu maintenant. Alors, pour cela, j'ai quand même trois remarques liminaires à faire. La première, c'est une très belle phrase d'André Bazin, c'est dans l'évolution du langage cinématographique. André Bazin dit qu'il y a deux sortes de cinéastes, les cinéastes qui croient en l'image et les cinéastes qui croient au réel. Alors, bon, quand il écrit ce texte, c'est en relation avec le cinéma de Bresson, de Wells, donc évidemment c'est très daté. Mais ça a gardé une certaine fortune. Serge Danet est souvent revenu sur cette expression en la réadaptant aux années 70, 80, 90. Bazin n'est pas très clair sur ce qu'il entend par l'image d'un côté et le réel de l'autre. Enfin, le réel, si, parce que le réel, il a un modèle, c'est Rossellini. Sur l'image, c'est un petit peu plus complexe. Mais en même temps, bon, on peut se permettre de fait de l'interpréter à notre manière. Donc là, en l'occurrence, je vais vous proposer une petite histoire de la modernité cinématographique. Et en fait, l'histoire de la modernité cinématographique, pardon, est absolument hantée par la question du son et traite constamment du son. C'est-à-dire, il n'y a pas un cinéaste moderne qui n'ait pas traité de la question du son. Ceci dit, vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par moderne? C'est là donc où j'en reviens à Bazin. C'est-à-dire, l'interprétation qui n'engage que moi, enfin. C'est celle que je vous donne, et puis on peut la soumettre à discussion, c'est que ce que je vais entendre par moderne, c'est-à-dire c'est une histoire du cinéma qui, au-delà des récits qu'elle va proposer, sera toujours habitée par la notion même de cinéma, c'est-à-dire la notion de dispositif, la notion d'image elle-même, la notion éventuellement la notion de récit, mais bien plus souvent la notion des médiums qui sont mis en œuvre pour que le cinéma existe en tant que tel, et donc l'image, le son, la plastique. D'une certaine manière, l'idée que je vous propose du cinéma, l'idée que je vous propose, pardon, de la modernité au cinéma, et du mot moderne en l'occurrence, ce sont ces œuvres qui, à un niveau ou à un autre de leur scénario, fonctionnent sur des principes de mise en abîme, de l'œuvre dans l'œuvre, de réflexivité, et qui finalement ont comme sujet avoué ou inavoué, le cinéma lui-même. Alors parfois c'est déguisé quand on a un formidable récit et qu'en creux on voit que c'est une espèce de symphonie sur ce qu'est le cinéma lui-même. Et puis parfois c'est ouvertement posé et ça joue fondamentalement sur les ressources plastiques même du cinéma. Alors on pourrait faire comme ça donc cet inventaire. Ça partirait de L'homme à la caméra de Dziga Vertov, des films modernistes de Eisenstein, Orson Welles ou Robert Bresson, tous axés sur l'exploration radicale ou exclusive des ressources visuelles et sonores du cinéma, mais aussi du silence, alors chez Antonioni ou chez Ingmar Bergman, dont l'influence dans le récit révèle paradoxalement autant l'expérience iconique dans sa dimension phénoménologique que celle du son. Il pourrait y être également question de la musicalité expérimentale du son conçu comme une composition pour Jacques Tati, et comme une allégorie de l'humanité dans 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On pourrait aborder également sa dynamique matériste et fictionnelle pour David Lynch, ou sérielle et théorique pour Peter Greenaway, et du son enfin quand il prend corps et devient un personnage à part entière dans Les Invisibles de Thierry Jousse. Voilà. Ma troisième remarque, c'est le fait que j'aborderai d'une certaine manière que la première partie, c'est-à-dire des œuvres plus classiques et plus anciennes, parce qu'initialement, Jérôme Hansen devait venir en conférencier et on avait communiqué ensemble, et lui, me semble, voulait aller vers justement des œuvres un petit peu plus récentes. Donc moi, je resterai, je me dévoue pour les œuvres plus historiques, disons. Alors, prenons un exemple entre tous, je trouve, c'est le très, très symbolique. C'est finalement le chanteur de jazz d'Alain Grosland, qui est, comme vous le savez, le premier film parlant. Enfin, plus exactement, c'est un film muet avec des scènes chantées. Bon. Donc, 1927, premier film avec des scènes parlantes, chantées. Et on peut imaginer que cette. On pouvait supposer que cette présence du sonore dans le cinéma allait être un lieu de réjouissance et de convivialité sémiotique. Il n'y a pas du tout. C'est-à-dire que l'histoire du chanteur du jazz, c'est terrible. Le problème dans le chanteur de jazz, c'est précisément le chant. C'est-à-dire, le chanteur de jazz, c'est l'histoire donc d'un jeune homme de confession juive dont le père souhaite qu'il soit comme lui chanteur à la synagogue. Mais lui, qui chante donc admirablement comme son père, lui ne rêve que d'une chose, c'est de faire du cabaret. Et son père s'oppose littéralement à la vie que choisit son fils d'être donc un chanteur de music-hall. Et il lui demande de consacrer sa voix à la prière. Et lui s'y refuse jusqu'à la fin du film, donc où le père meurt en partie du reste du choix de son fils qu'il vit tragiquement. Et à ce moment-là, le fils, face à la mort du père, à ce moment-là, stoppe sa carrière et va chanter à la synagogue. Donc, on voit que finalement le premier film sonore, d'une certaine manière, est un lieu de crise dramaturgique. C'est-à-dire, certes, le son apparaît, mais au détriment des personnages eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est loin d'être un lieu de réjouissance, de convivialité, ça devient un élément dramaturgique extrêmement important. Donc, symboliquement, c'est assez intéressant. Alors là, bon, je vais faire deux, trois anachronismes. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un autre genre cinématographique qui va beaucoup jouer d'ailleurs sur ces ressources entre l'avant et l'après. On n'y pense pas forcément dans la génération des étudiants en école d'art, enfin, avec la pratique que j'en ai, mais j'en ai tout de même un petit peu, pense pas forcément à la comédie musicale hollywoodienne et américaine. Et pourtant, c'est souvent quelque chose qui habite ces films, que justement ce passage d'un âge à l'autre, à des degrés différents, mais en particulier dans Chantons sous la pluie, c'est justement la gestion de ce passage du muet au parlant qui est un des sujets du film. Alors derrière la luxuriance, la débauche festive, chromatique de ces films en Technicolor, vous avez toujours une espèce de mélancolie qui est finalement, encore une fois, une mélancolie proprement cinématographique d'une certaine modernité. Dans Chantons sous la pluie, c'est édifiant, c'est-à-dire la question des bruitages, la question où placer un micro quand on filme à partir du moment où ça devient sonore, des questions qu'on ne se posait pas du temps du parlant, et ainsi de suite. Donc ça devient... Du coup, le cinéma, en même temps, c'est l'aurore d'une nouvelle histoire des signes, mais inconsciemment, en tout cas, même dans la comédie musicale, il y a ce sentiment comme ça de passage incertain, quoi. Alors, évidemment, le cinéaste qui va en être le à la fois le théoricien et le plus... l'esthète, ça sera Eisenstein. Alors là, Eisenstein, et c'est là où je vous parlais vraiment de l'inconscient cinématographique, en 1928, donc Eisenstein a écrit un texte avec deux autres cinéastes, Poudovkine et Alexandrov. C'est le manifeste du contrepoint orchestral, l'avenir du film sonore. En fait, devant l'avènement du parlant qui menace à leurs yeux le cinéma art, qui jusque-là trouvait essentiellement ses ressources dans le principe du montage, ils préconisent un décalage entre l'image et le son pour que les potentialités proprement artistiques du cinéma ne dérivent pas vers le seul théâtre filmé. Donc ça, c'est un texte majeur. Et ce texte dit que finalement, pour que, encore une fois, le cinéma ne devienne pas du théâtre filmé, il faudra jouer de contrepoints, de ce qu'on dirait avec ce que je peux dire moi aujourd'hui avec des termes un petit peu plus renouvelés, ce serait des courts-circuits entre l'image et le son. C'est-à-dire que constamment, il y ait des déphasages et des oppositions. Alors, cette conception, elle a totalement irrigué, finalement, aussi bien le cinéma d'auteur que un principe moderne du cinéma, que aussi, d'ailleurs, les vidéos d'avant-garde ou le cinéma expérimental. Alors, j'ai un certain nombre d'exemples à, à donner, mais sur Eisenstein, mais n'ayant pas de film à projeter, peut-être que je vais passer parce que le temps presse. Hein. Ouais, ça commence à être un peu lent. Je sens l'organisation qui regarde les montres. Alors, donc, bon, je passerai sur les exemples d'Eisenstein, mais disons que ce texte est fondateur. Et alors, deuxième anachronisme que je ferai, c'est le fait que... Alors, c'est Alain Robbe-Grillet qui est mort la semaine dernière et qui a une œuvre cinématographique qui est pas très connue, c'est moins que l'on puisse dire, et qui lui-même a beaucoup travaillé la dimension sonore et musicale. Et alors, il avait une conception très pertinente. Il pensait dans ses films que la musique devait être élevée à un principe de narration. C'est-à-dire que dans sa conception, c'est très théorique le travail de Robbe-Grillet, et dans sa théorie, la musique, c'est le vecteur dramaturgique. C'est d'une certaine manière le scénario. C'est la musique qui porte les images, alors que pour lui, dans un cinéma classique, c'est finalement les images, d'une certaine manière, qui donnent le ton sur la musique. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces notions. Alors, si le temps passe, on va peut-être, je vais peut-être un tout petit peu donc faire deux projections. Donc, je me limiterai peut-être à deux projections. La première donc serait celle un court extrait. À chaque fois, c'est des très courts extraits, hein, de Blow Up.
Right, let's move out.
But you haven't taken any photos.
No, I'm too whacked. That's your own fault.
Voilà, donc un court extrait de Blow Up, bon film, film culte que vous avez, je sais, vu à de nombreuses reprises. Mais en même temps, c'est intéressant de revoir tous ces films, j'ai envie de dire, avec les oreilles, c'est-à-dire s'intéresser tout d'un coup vraiment à l'histoire, à la ligne sonore de ces films. Alors, Bonitzer avait une jolie phrase à propos de La Notée d'Antonioni. Il disait que ce n'est pas un film en noir et blanc, mais un film de noir et de blanc. Et c'est vrai que, justement, sur ce principe moderne dont je vous parlais tout au début, le cinéma d'Antonioni est un cinéma qui constamment interroge les ressources mêmes de l'image et dans leur rapport au son, entre autres. Et donc, Blow Up, de ce point de vue-là, est relativement exemplaire parce que se trouve introduit la figure donc, du photographe avec cette manipulation de la photographie dans le film, une espèce de nostalgie du cinéma, en tout cas de nostalgie, je ne sais pas, mais en tout cas de retour du cinéma sur le temps, sur ce temps passé où il n'était que qu'image immobile, hein, finalement c'est ça, hein, des images fixes dans des images en mouvement. Hein, c'est d'un coup le cinéma qui d'un coup se regarde du temps où il n'existait pas encore et où il n'était que photographique. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent dans la photographie au cinéma, les cinéastes jouent beaucoup sur le toucher. Tout d'un coup on est face à une image qu'on peut toucher, une image manipulable, palpable, parce que tout d'un coup on est face à de l'image concrète que le cinéma est, pas puisque lui c'est de l'image projetée. Donc on est comme ça chez Antonioni sur les ressources même du cinéma. Dans Blow Up, c'est particulièrement prégnant. Et vous savez, c'est Bresson qui disait que c'est le cinéma sonore qui a inventé le silence. Et là, donc, on est dans une des figures du silence du cinéma sonore. Alors, on voit le traitement. Il est d'ailleurs très, 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 très fin, ce traitement du son dans Blois, parce que, dans un premier temps, donc, grande nappe de silence. Ensuite, à l'intérieur de son studio, il commence à voir des images. Le son de l'extérieur apparaît, on ne sait pas trop si c'est un peu de vent, et puis on comprend ensuite que c'est un avion. Donc l'extérieur apparaît et par le biais du sonore, et ensuite on va se retrouver, donc plan raccord, on se retrouve donc dans le parc, et là c'est la figure du vent qui est réintroduite. Alors, le silence, c'est évidemment un élément tout à fait capital dans notre histoire. Un autre élément capital, c'est le cinéma de Jean-Luc Godard, mais là, je n'ai vraiment pas le temps de l'aborder. Donc, je terminerai juste sur un extrait de 2001, Odyssée de l'espace, qui est un grand film sur le son, encore une fois, puisque toute l'intrigue se situe à travers... à travers trois grandes figures sonores. D'abord, une stèle qui est découverte sur une planète lointaine et qui est donc un bruit strident. Ensuite, tout un travail acousmatique, finalement, où l'ordinateur comprend qu'on essaie de le débrancher et donc il lit ça sur les lèvres des astronautes. Et puis la troisième, c'est la fin, c'est ce qu'on va voir maintenant.
What do you think you're doing, Dave? I really think I'm entitled to an answer to that question. I know everything hasn't been quite right with me. But I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again. I feel much better now. I really do. Look, Dave. I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill, and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992.
Voilà, donc c'est évidemment un film que vous connaissez encore une fois, mais disons que non seulement la mémoire s'arrêtant, la voix va s'exténuer, et la voix s'exténuant, donc à ce moment-là, l'ordinateur va chanter une chanson, s'éteindre définitivement, et puis un film va donc être diffusé parce que théoriquement, si on est arrivé à ce point de l'histoire, c'est que les astronautes ont réussi leur mission et donc on leur donne les raisons de leur aventure. Donc en fait, 2001, Odyssée de l'espace, est véritablement une variation donc, sur le rapport entre l'image et le son. Le son, c'est vraiment un élément dramaturgique essentiel. Et ça participe justement de cette réflexion sur les propriétés mêmes de l'image et du son. Parallèlement, cela continue à apporter un élément à ce rapport, disons, de tension entre l'image et le son. On est très loin, là, comme vous le voyez, d'un son hollywoodien où le son, finalement, en rajoute sur l'image. Mais tout au contraire, c'est dans des décalages constants que les opérations s'organisent. Voilà. Donc, bon, évidemment, l'histoire est prolongeable ainsi jusqu'à demain.